Alors, la liste des bibliothèques populaires libres adhérentes au syndicat des bibliothèques populaires de la Seine, qui est publiée en 1898, fait état de l'existence d'une bibliothèque populaire dans le 20e arrondissement de Paris depuis 1877. Cette bibliothèque, dont l'histoire est jusqu'à présent inconnue, est encore largement méconnue, puisqu'on n'a pas retrouvé malheureusement les archives de cette bibliothèque, ni même son fonds, qui doit se trouver dans une bibliothèque municipale, mais pour l'instant, mes recherches n'ont pas abouti. Donc, cette bibliothèque s'inscrit jusqu'à présent, s'inscrit dans le mouvement des bibliothèques populaires libres qui prend son essor à partir du Second Empire. D'abord, lieu de lecture, leur vocation s'est ensuite élargie à l'organisation et à l'accueil de conférences et de cours du soir. À la fin du XIXe siècle, la majorité des arrondissements parisiens, 14 sur 20, sont pourvus d'une bibliothèque populaire. La plus ancienne, comme on le sait, la bibliothèque des instructions du 3e arrondissement, fondée en 1861. Les autres bibliothèques parisiennes voient le jour entre 1862 et 1877, cette même année 1877, voyant la création à la fois de la bibliothèque populaire du 13e arrondissement et de celle du 20e. En 1898, la bibliothèque populaire du 20e arrondissement se tient aux 40 rue de Ménilmontant, dans un ancien atelier situé en rez-de-chaussée dans la cour, qu'elle loue pour la somme de 450 francs. Auparavant, elle avait occupé un autre local, au 14 rue de Lattre, une boutique en rez-de-chaussée qui est louée 1100 francs, dont on pense qu'effectivement le loyer devait peser lourdement sur ses finances. Dans un cas comme dans l'autre, les documents qui sont conservés aux archives de Paris, qui s'appellent les calepins du cadastre, nous indiquent que le bail est accordé, je cite, à un certain monsieur Métivier, président de la Bibliothèque populaire. Alors là, l'enjeu, évidemment, c'est de trouver qui est ce monsieur Métivier. Un prénom, aucune indication d'adresse, aucun autre renseignement le concernant sur ces documents qui sont avant tout des documents. Alors, quand on connaît un petit peu l'histoire politique et sociale du 20e arrondissement, on est tenté d'identifier ce monsieur Métivier à Auguste Métivier, qui a été un acteur important, très engagé dans l'action politique sociale et philanthropique du 20e arrondissement, et à qui l'arrondissement doit beaucoup, mais qui est aujourd'hui un acteur un peu oublié de notre histoire locale. Il a été pendant 10 ans le représentant au conseil municipal de Paris, du quartier de Saint-Fargeau, et effectivement, il est le créateur de la bibliothèque populaire du 20e arrondissement, et je vais vous expliquer par quel cheminement je suis arrivée à cette certitude. On peut déjà peut-être regarder son portrait, qui est conservé à la bibliothèque administrative de la ville de Paris, qui conserve tout un combinoscope extrêmement intéressant des conseillers municipaux parisiens. Donc voilà, un beau personnage qui, comme tous les personnages de cette époque-là, paraît beaucoup plus vieux que son âge. Alors d'abord un mot sur la famille Métivier, parce que c'est une famille extrêmement intéressante, au parcours à la fois extraordinaire au sens propre du terme, mais en même temps qui a été celui d'un certain nombre de familles républicaines de cette époque-là. Les Métiviers sont originaires du Berry, où Auguste Métivier, qui a été déclaré à l'état civil sous les prénoms de Louis-Augustin, naît le 24 décembre 1827 à Henrichemont, dans le Cher. Son père, Auguste Métivier, et beaucoup d'autres membres de sa famille sont poêliers ou ferblantiers. Je rappelle que le métier de ferblantier, ça consiste à fabriquer et à vendre ou à vendre des outils et des ustensiles en fer blanc, le fer blanc étant un acier doux recouvert d'une fine couche d'étain et sert souvent à la fabrication des instruments ménagers comme des casseroles, des bassines, des assiettes, des lanternes en fer. Et on s'est servi usuellement de ce blanc avant que l'aluminium ne se répande dans les arts ménagers. Alors Louis-Augustin est le fils aîné de la famille. Il a 5 frères et une sœur, tous nés entre 1830 et 1845. La famille vit à Richemont, nous dirons dans une petite aisance laborieuse. Ce sont des gens qui travaillent de leurs mains, qui travaillent beaucoup, mais qui visiblement ont une vie quand même assez aisée, facile du moins. Et les listes de recensement indiquent qu'ils ont une domestique et deux ouvriers ferblantiers qui sont logés chez eux. En décembre 1851, en violation de toute légitimité constitutionnelle, Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la Seconde République en 1848, refuse de rendre son mandat et devient Napoléon III, empereur des Français. Le coup d'État du 2 décembre 1851 suscite une vive réaction républicaine dans plusieurs régions françaises, notamment dans une trentaine de départements ruraux. La répression est sévère. Dans un premier temps, 26 884 personnes sont arrêtées, principalement à Paris, dans le sud-est, dans le sud-ouest et dans quelques départements du centre. Le nouveau régime veut aller vite et frappe fort. Les prisons se remplissent. Le nouveau gouvernement met en place dans chaque département des commissions mixtes qui sont composées du préfet, d'un militaire haut gradé et d'un magistrat, dont il attend qu'elles soient sévères et expéditives dans leur jugement. Et elles le sont effectivement, puisque en quelques jours, en fait, elles statuent sur le cas de milliers d'individus. La Constitution de 1848 a aboli la peine de mort pour les crimes politiques. On va donc avoir recours à d'autres peines, des peines graduelles qui vont de la simple surveillance en France à la déportation au bagne, en passant par la transportation en Algérie. Et cette mesure tombe à point pour développer cette colonie qui est encore un pays neuf, ouvert à la colonisation seulement depuis une vingtaine d'années. Les 250 chefs présumés de l'insurrection sont traduits devant les conseils de guerre et les autres personnes arrêtées sont jugées par les commissions mixtes. Elles sont condamnées pour 9530 d'entre elles à la transportation en Algérie et pour 239 autres au bagne à Cayenne. Alors dans le Berry aussi, la répression est sévère, particulièrement en Richemont où on relève 18 arrestations. Le fabricant de formes Jules Auchert et le pharmacien Louis-Auguste Cadet sont condamnés à la peine Algérie Plus, qui est une peine plus sévère, évidemment, comme les meneurs locaux de l'insurrection pour enrichissement. Trois autres personnes sont condamnées à la peine Algérie Moins, le sabotier Gilbert Jasset, le menuisier Félix Lacroix et le ferblantier Augustin Métivier. Et les autres prévenus sont condamnés à l'internement, en fait une assignation en résidence surveillée pour trois personnes ou à la simple surveillance pour 10 personnes. Alors, concernant Augustin Métivier, les appréciations de la commission mixte le dépeignent comme un homme exalté, dangereux, et on lui impute des propos très graves qu'il aurait tenus à l'époque des événements de Précy. Alors, inutile de dire que cette arrestation bouleverse complètement la vie de la famille Métivier. En 1852, Auguste a 25 ans, et il a déjà commencé ses études de médecine à Paris. Suite à la condamnation de son père, toute la famille se retrouve dans une situation de survie matérielle difficile. Dans une lettre de demande de grâce qu'elle adresse au procureur, la mère de famille résume ainsi la situation de la famille. « Depuis le 28 novembre 1851, je suis privée de mon mari. Je suis restée seule chargée de 7 enfants. » Sans autre ressource de fortune que les bras de deux de mes fils, ils sont venus spontanément se grouper autour de moi pour éloigner de leur faible force la misère qui venait de s'abattre lourdement sur nous tous. J'ai dû souffrir avec résignation et patience, espérant chaque jour la délivrance de mon mari, pour moi et pour mes enfants, la délivrance de leur père. En fait, Augustin Métivier est transporté en Algérie, à Douéra, dans la province d'Alger. Douéra, en fait, ce n'est pas encore un village, il a été créé en 1835, c'est plutôt un camp dépôt peu à peu consolidé par les soldats constructeurs. Il bénéficie d'une remise de sa peine le 2 février 1853, mais on ignore précisément quand il est rentré en France. Alors, l'arrestation et la condamnation de son père obligent Auguste Métivier à interrompre ses études de médecine, commencées à Paris en 1846. Après avoir passé brillamment son baccalauréat S-Lettres à Bourges en 1845-1846. On trouve ses inscriptions à la faculté de médecine de Paris jusqu'en 1847, à laquelle il semble interrompre son cursus. Peut-être vraisemblablement, on peut le penser, à cause de la situation parisienne qui est extrêmement troublée pendant l'année 1848. Les émeutes conduisent à l'abdication du roi Louis-Philippe en février 1848 et à la proclamation de la Deuxième République. Il est possible alors que sa famille lui ait demandé de rentrer par prudence à Richmond. Ensuite, à partir de l'arrestation de son père, en novembre 1851, Auguste doit aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille pendant toute la durée de la déportation de son père en Algérie. En plus, ce pauvre Auguste joue de malchance, si je puis dire, puisque à partir de 1852, est instaurée une bifurcation entre les études littéraires et les études scientifiques, et le baccalauréat des sciences est désormais exigé pour s'engager dans les études médicales. Auguste est donc obligé de reprendre ses études pour passer le baccalauréat. En 1855, on retrouve Auguste Métivier, interne en médecine des hôpitaux de Paris, et le 9 juillet 1860, il soutient sa thèse de médecine aperçue sur la nature de la fièvre puerpérale, qui est un sujet qui, à l'époque, adresse et préoccupe beaucoup les médecins. Un sujet de thèse qu'on retrouve très souvent. C'est à ce moment-là également que Auguste Métivier devient Bellevillois d'adoption. Déjà en 1860, il vit dans le 20e arrondissement, d'abord au numéro 16, puis au numéro 15 de la rue de la Mare. Quelques années plus tard, le 22 décembre 1866, c'est à la mairie du 20e arrondissement qu'il épouse Antoinette Léontine Calton, âgée de 33 ans, sans profession, demeurant chez sa mère 257 rue de Paris, qui est actuellement la rue de Belleville, à Paris, 19e arrondissement, quartier d'Amérique. En 1872, naît leur fils Eugène Métivier, qui sera lui aussi médecin en 1899, avec une thèse qui mériterait d'ailleurs d'être étudiée du point de vue de l'histoire locale, la diminution de la mortalité dans le 20e arrondissement de Paris pendant une période de 9 années, 1888-1897, cause probable. La plus grande partie de la famille Métivier se rassemble, vient se regrouper à Paris autour d'Auguste dans le 20e arrondissement. Ses parents y décèdent tous les deux, le père en 1874, la mère à 92 ans en 1899, et tous deux sont enterrés au cimetière du Père Lachaise dans la concession que leur fils leur achète en 1874. Tous ses frères et sa sœur sont également fixés, plus ou moins durablement, dans l'arrondissement, à l'exception toutefois du frère cadet d'Auguste, qui s'appelle Philippe Eusis, qui est né en 1832, qui lui se fixe à Chartres, en Eure-et-Loire, où il est constructeur en cuivre, marchand chaudronnier, chaudronnier fumiste, puis quincailler. C'est le seul qui reprend la tradition familiale de la ferblante. Auguste Métivier s'installe également durablement dans le 20e arrondissement. D'abord pendant près d'une vingtaine d'années, en location, au 15 rue de la Mare, dans un petit immeuble à 100 luxe, typique de l'architecture faubourienne. Puis, à partir de 1882, au 373 rue des Pyrénées, dans une maison confortable et spacieuse, qui fait 400 mètres carrés, il fait construire en 1881, et cette maison est estimée à 40 000 francs lors de son décès. Il a quand même une certaine aisance matérielle. C'est à cette adresse qu'Auguste Métivier meurt le 18 septembre 1893, à 66 ans, tout comme sa veuve en 1897, et tous deux reposent pour une raison que j'ignore, au cimetière du Montparnasse. Auguste Métivier fait preuve d'une profonde implication dans la vie citoyenne du 20e arrondissement. Pendant la guerre de 1870, il s'est engagé comme chirurgien aide-major du 30e bataillon de la garde nationale, un des 16 bataillons de la garde nationale de la première armée, commandé par le général Clément Thomas, celui-là même qui sera fusillé le 18 mars 1871 à Montmartre lors de la tentative de reprise des canons, et que son assassinat sera un élément déterminant dans le déclenchement de la Commune de Paris, proclamé ce jour même, 18 mars 1871. C'est aussi en 1870 qu'il fait ses premières interventions en politique, au niveau local. Il est un des membres de la commission municipale provisoire qui est mise en place en novembre 1870 pour administrer l'arrondissement, eu égard aux résultats impraticables des élections municipales du 6 novembre 1870, et en attendant le résultat des poursuites lancées contre Ranvier, Florence, Millière et Le Français. Placé sous le coup d'une instruction judiciaire en raison de l'attentat commis contre la République dans la soirée du 31 octobre 1870, cette fameuse soirée où les tirailleurs de Belleville, conduits par Flourens, ont essayé d'investir et de prendre l'hôtel de ville qui était le siège à ce moment-là du gouvernement de la Défense nationale. Puis, de 1870 à 1881, donc, il est membre du conseil municipal de Paris pour le quartier Saint-Farge. La carrière politique de Métivier s'inscrit très étroitement dans le sillage de celle de Léon Gambetta, qu'il connaît, semble-t-il, depuis la rédaction du programme de Belleville en 1860. Gambetta, dont on sait qu'il est le député de Belleville de 1871 jusqu'à sa mort en 1882 à Sèvres. Pendant toute cette période, Métivier milite très activement dans le 20e arrondissement pour soutenir Gambetta. Il fait figure de principal agent électoral, présidant tous les comités de soutien à Gambetta, organisant de très nombreuses réunions électorales et soutenant avec ardeur les candidatures de ce dernier. Le 30 juillet 1871, Auguste Métivier entre au conseil municipal de Paris, donc, comme élu du quartier de Saint-Fargeau, au deuxième tour, par 342 suffrages sur 486 votants. Il siège à gauche sur les bancs des Républicains, et en décembre 1874, il est réélu par 693 voix contre 0 voix à son adversaire, un score tout à fait remarquable, et il est qualifié dans les rapports de police de très républicain. Mais à Belleville comme ailleurs, les militants gambettistes sont divisés, particulièrement sur la question de l'amnistie des communards, sur laquelle les positions divergent. Bientôt, on reproche à Métivier, c'était une note de police du mois de mars 1879, son désintéressement pour la cause républicaine et son indifférence complète à se rendre auprès des personnes malades qui réclament ses soins. Finalement, il est battu aux élections municipales de janvier 1881. Aux élections législatives de cette même année, il continue à soutenir Gambetta, président des réunions du comité central radical républicain indépendant des quartiers de Belleville et du Père-Lachaise. Et après la mort de Gambetta en 1882, il échoue à sauver sa succession. Et finalement, aux législatives de 1883, il est battu le candidat de l'extrême gauche, Sigismond Lacroix, qui l'emporte par 3474 voix contre 2048. C'est encore une citation que je vais vous lire qui vous donne un petit peu ce qu'on dit de lui à cette époque-là. Monsieur Métivier se donnait comme l'héritier, non du grand orateur et de son talent, de son patriotisme, mais comme l'héritier de son programme. Monsieur Métivier, qui est modeste, avait eu soin de faire dire par la République française, qui est le journal des artistes, je ne suis rien qu'un brave homme très obscur. En 1885, il tente encore sa chance aux législatives sur une liste de l'Alliance républicaine du comité de Tolin, mais enfin. Alors maintenant, venons-en au sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui est le rôle de Métivier dans la fondation de la Bibliothèque populaire du 20e arrondissement. Donc c'est à Auguste Métivier que le 20e doit sa première bibliothèque populaire libre, œuvre qui l'occupe beaucoup à partir de 1876. Le dossier de surveillance le concernant, conservé aux archives de la préfecture de police de Paris, et divers documents imprimés qui sont à la Bibliothèque nationale de France, viennent confirmer sa profonde implication. Son dossier de police illustre bien les tracasseries administratives auxquelles on peut se heurter, comme beaucoup d'autres, la Bibliothèque populaire du 20e arrondissement, au moins jusqu'en 1876. Avant cette date, l'ordre moral règne et la méfiance envers les bibliothèques populaires est totale, même dans la bourgeoisie éclairée. Cependant, les élections législatives de 1876, largement remportées par les Républicains, desserrent un peu l'étau et sept nouvelles bibliothèques populaires sont créées à Paris entre 1875 et 1870. Alors, la police s'intéresse au projet de bibliothèque populaire de Métivier dès septembre 1876. On le trouve à plusieurs reprises dans son dossier, on trouve des notes de police qui qui évoquent les réunions, qui reprennent ses propos. Particulièrement, la police signale des réunions privées. Vous avez d'ailleurs dans les images aussi un petit billet d'invitation à une réunion privée où on parlera de la bibliothèque populaire. Les réunions sont privées parce que les réunions publiques, tout simplement, sont interdites. Donc, on peut faire des réunions privées de 200 personnes, ce n'est pas un problème, à condition qu'on les déclare comme réunions privées. Ces réunions sont convoquées par Métivier dans diverses salles du quartier de Belleville, notamment la salle Graffa, sur la question de la création d'une telle bibliothèque. L'une d'elles, notamment, une de ses notes, fait allusion à une réunion qui est tenue en septembre 1876, qui, je cite, aboutit à un fiasco complet. La police signale aussi une réunion des souscripteurs de la bibliothèque populaire le 3 août 1877, 14 rue de Lettres, au cours de laquelle Métivier, qui souligne le policier, ne parla que fort peu de politique, recommanda la patience en disant qu'il fallait savoir attendre, qu'il n'y avait pas lieu de liquider entièrement les comptes de la bibliothèque et qu'en conséquence, les sommes versées resteraient entre les mains du trésor. Il conclut en disant « On attendra ainsi le résultat des élections qui devraient être républicaines. » Donc, on peut déjà en conclure qu'en août 1877, la bibliothèque a été déjà créée au moins de facto, qu'elle a des souscripteurs et qu'il y a de l'argent en caisse, mais qu'elle se heurte à des problèmes administratifs. Toutefois, les élections à venir peuvent laisser des espérances. Une lettre co-signée du docteur Métivier, président de la Bibliothèque populaire, et de M. Kim Flynn, qui en est le secrétaire général, est publiée par divers journaux, notamment par l'Écho universel du 8 juillet 1877. Cette lettre est intéressante car elle fournit des précisions sur cet embryon de bibliothèque populaire et sur les problèmes qu'elle rencontre. Voilà ce qu'elle dit. La bibliothèque populaire fonctionnait depuis 3 mois déjà dans l'arrondissement, avec l'assentiment verbal de l'administration et la promesse d'autorisation officielle, quand le préfet fait connaître son refus et en ordonne la fermeture. Et les signataires, tout en protestant, veulent prévenir les adhérents que le local est fermé, mais que nous ne renonçons pas à l'œuvre et que nous les prions de lui garder pour un temps prochain leur sympathie et leur concours. En parallèle, fin 1877, début 1878, on cherche à réunir des fonds, bien sûr, pour organiser la bibliothèque, et particulièrement, on organise plusieurs conférences publiques qui sont assurées par Gambetta, le député de Belleville lui-même, et par plusieurs de ses collègues à la Chambre, comme Paul Deschanel et Martin Nadeau. C'est aussi en 1877 que la Bibliothèque populaire du 20e arrondissement adopte ses statuts. Les statuts qui sont extrêmement classiques, qui ressemblent à peu près à ceux de toutes les bibliothèques populaires de cette époque, et qui sont en grande partie empruntés à la Bibliothèque des Amis de l'Instruction du 3e arrondissement, qui est qualifiée dans le texte de notre devancière. On reconnaît là une filiation avec la Bibliothèque de l'Instruction du 3e arrondissement. C'est une structure administrative ouverte seulement à ses sociétaires qui seuls ont le droit de voter dans les assemblées générales. Elle a pour but de procurer aux adhérents et à leur famille les livres nécessaires à leur instruction ou à leur délassement. Pour adhérer, il faut avoir au moins 18 ans, déclarer son état civil et sa profession, qui montre qu'on travaille usuellement à l'âge de 18 ans. Il faut acquitter aussi un droit d'admission et s'engager à payer une cotisation mensuelle. Les membres d'autres bibliothèques partenaires sont exemptés du droit d'admission, qui est fixé à 2 francs pour les hommes et 1 franc pour les dames, payable par moitié au moment de l'inscription et pour l'autre moitié dans les 2 mois qui suivent. Ce droit d'inscription donne droit à la remise des statuts, du dernier compte-rendu de l'Assemblée générale et, à prix coûtant, d'un livret où sont consignés les prêts de livres et le paiement des cotisations mensuelles. La cotisation mensuelle est de 30 centimes, égale pour les femmes et les hommes, exemple d'égalité des sexes, et elle doit être payée régulièrement, sous peine, bien entendu, de sanctions. Les livres sont revêtus du timbre de la bibliothèque, ils sont prêtés à l'unité, sauf si le texte et les planches sont reliés à part, pour 20 jours renouvelables, si personne d'autre ne demande cet ouvrage. Les dictionnaires, encyclopédies et collections sont consultables sur place Et les ouvrages de prix ne sont prêtés que sur autorisation spéciale du président. Les dégradations ou les vols sont passibles de sanctions sévères et même de l'exclusion de la bibliothèque. Donc ce sont vraiment des statuts très classiques que l'on retrouve dans nombre de bibliothèques populaires. Comme la plupart de ses homologues, la Bibliothèque populaire du XXe est ouverte tous les soirs de 8h à 10h et le dimanche de 10h à midi, tout simplement pour permettre aux usagers de la fréquenter en dehors de leurs horaires de travail. Mais dans ses statuts, elle ne propose pas, comme certaines autres bibliothèques populaires le font, des activités du genre conférences, cours, excursions, concerts ou soirées familiales autres que le prêt des livres. Même si dès 1876, on envisage d'en organiser, mais pour l'instant, c'est une idée qui n'est pas encore passée dans la réalité des faits. Alors, la grande originalité de la Bibliothèque populaire du 20e arrondissement, c'est qu'en fait, bon, elle a, comme les autres bibliothèques populaires, elle a pour but effectivement d'apporter de la lecture et de l'élévation intellectuelle, si on peut dire, aux ouvriers, mais c'est aussi une machine politique républicaine extrêmement bien organisée. On dispose, on n'a pas, comme je l'ai dit, on n'a pas les archives de cette bibliothèque populaire, mais on dispose de deux listes. Liste des membres des conseils d'administration conservés pour la fin de 1876 et pour l'exercice 1878-1879. Donc, et à partir de ces deux listes, on peut reconstituer une liste de 34 noms de membres du conseil d'administration dont l'analyse est extrêmement intéressante. Alors, le conseil d'administration comprend en 1876 19 membres, 20 en 1878. Il est dirigé très classiquement aussi par un bureau de 8 personnes dont la composition est fixe. Un président, deux vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire trésorier, deux secrétaires adjoints et un archiviste. Le président est toujours Métivier, conseiller municipal, donc Auguste Métivier, conseiller municipal républicain du quartier de Saint-Fargeau et fondateur de la bibliothèque. Les vice-présidents sont également toujours des conseillers municipaux parisiens, choisis parmi les élus des quatre quartiers administratifs qui forment le 20e arrondissement. On trouve successivement le marchand de vin Adolphe Bralleret, qui est conseiller municipal républicain radical du quartier de Belleville de 1871 à 1887, l'industriel Pierre-Hippolyte Topard, qui est conseiller municipal républicain modéré du quartier de Charonne de 1871 à 1874, puis maire de l'arrondissement en 1879. Alors, ce Topard est avec son frère à la tête d'une entreprise de bijouterie d'imitation, perles fines, corail et pierres précieuses, qui est située rue de Bagnolet et qui emploie en 1886 entre 800 et 1000 ouvriers. Donc, c'est un grand industriel, pourrait-on dire, de l'arrondissement. Il y a également Charles Quentin, qui est conseiller municipal républicain du quartier du Père-Lachaise, de 1876 à 1880. Il y a l'avocat Léon Sic, qui est conseiller municipal du quartier de Charonne, de 1878 à 1880. Enfin, l'Alsacien Maurice Véran, qui est conseiller municipal du quartier de Charonne, et qui, lui, évidemment, va être présent très peu longtemps, puisqu'il est élu en janvier 1878, mais décède en février 1870. Mais ce qui est intéressant avec cet Alsacien Maurice Véran, c'est qu'il est président, par ailleurs, de l'Association des Alsaciens Lorrains de Paris. On est en pleine période, bien sûr, où les Alsaciens Lorrains ont quitté, pour certains, l'Alsace et la Lorraine, et ont opté pour la nationalité française. Et de plus, il est franc-maçon. Ainsi, on constate que Métivier a le souci constant de placer la Bibliothèque populaire du XXe sous la protection des conseillers municipaux de l'arrondissement. Comme lui, ce sont tous des républicains bontins avec des nuances plus ou moins radicales. Au sein du conseil d'administration, on relève aussi une forte représentation de l'équipe municipale de l'arrondissement. Le maire, tout d'abord, fonction occupée en 1879-80, par l'industriel Pierre-Hippolyte Topard, puis de 1880 à 1892 par le corvoyeur marchand de cuir Édouard François Gérard, qui était auparavant adjoint au maire Topard. On trouve aussi dans le conseil d'administration d'autres proches des maires de l'arrondissement, comme le secrétaire adjoint Séverin Gustave Lioré, qui est par ailleurs adjoint aux maires Topard et Gérard de 1879 à 1885. Un autre membre du conseil, l'instituteur Hippolyte Bureau, est adjoint au maire de 1879 à 1882, et son père, Hippolyte Bureau, est chef d'institution rue de Pixérécourt et secrétaire trésorier de la bibliothèque en 1876 et en 1878-79. Même si à cette époque, le pouvoir des maires d'arrondissement, qui, je le rappelle, sont nommés par l'administration centrale et non pas élus par les habitants de l'arrondissement, est extrêmement réduit. Leur pouvoir est surtout limité à enregistrer les décisions. Néanmoins, la proximité de la municipalité du 20e arrondissement avec la bibliothèque populaire est intéressante et doit être soulignée. Qu'il s'agisse de Topard ou de Gérard, ce sont des personnalités locales que Motivier connaît en plus depuis longtemps, car ils siégeaient ensemble à la commission municipale provisoire du 20e arrondissement, constituée en novembre 1870, pour administrer les affaires courantes après la proclamation de la République. Quant au secrétaire général de la bibliothèque, un certain Eugène-Émile Kipflin, alors lui, c'est un personnage qui reste encore assez mystérieux, on ne lui trouve pas de lien avec grand monde. On sait qu'il est originaire de Colmar, il est négociant en soie, il arrive à Paris vers 1863, et il vit dans le 20e à partir de 1875. Il n'a pas d'activité politique signalée, on ne trouve pas de dossier le concernant à la préfecture de police, mais on peut penser qu'il est arrivé dans cette position à la bibliothèque populaire comme protégé du conseiller municipal Véran, qui est par ailleurs président de l'association des Alsaciens Lorrains, comme je l'ai dit. Plus encore, les dossiers de police qui concernent Bralleret, Gérard ou Métivier montrent que la quasi-totalité des membres du conseil d'administration, du moins dans les années qui sont documentées pour l'instant, puisque pour l'instant je n'ai que 3 années sur lesquelles j'ai des renseignements, j'aimerais bien trouver d'autres comptes rendus de la composition du conseil d'administration. Donc tous ces personnages en fait appartiennent à la mouvance gambettiste de Belleville. Bien avoir présent à l'esprit que Belleville, c'est le fief de Gambetta depuis le programme de Belleville de 1869 et sa base électorale de 1871 à 1880. Ce sont donc des activistes politiques qui animent autour de personnalités comme Bralleret, Gérard ou Métivier, qui sont plus de premier plan, et qui sont les petites mains, toutes les chevilles ouvrières, qui animent le comité électoral de Gambetta dans le 20e arrondissement. Ils organisent les réunions électorales, les président ou en sont les assesseurs, suscitent les souscriptions et organisent les collectes dans les ateliers. Ce qui conduit à penser, d'ailleurs, comme la police en 1876, que cette bibliothèque populaire est en fait une machine de guerre politique destinée, je cite, à entrer en concurrence avec les radicaux et à promouvoir la candidature de Gambetta et de ses amis politiques dans l'arrondissement. Au-delà de son engagement politique républicain, et notamment gambettiste, qui l'occupe beaucoup de 1870 jusqu'au début des années 1880, Auguste Métivier mène une vie très active. Il a d'abord sa clientèle privée de médecins, qui l'occupe évidemment, mais il cumule également beaucoup de fonctions officielles à caractère sanitaire ou philanthropique. Font de lui forcément un personnage public important dans l'arrondissement. À partir de 1861, il est médecin de l'état civil, c'est-à-dire que c'est lui qui se rend au domicile pour constater les décès. Il est médecin à titre gratuit de la crèche laïque et pendant 15 ans, médecin du bureau de bienfaisance de l'arrondissement. Il est membre de la délégation cantonale de la Caisse des écoles et de la Caisse des écoles. Il est membre d'une commission spéciale qui est instituée au ministère de l'Intérieur pour préparer un projet de règlement d'administration publique pour l'organisation de l'assistance à domicile dans la ville de Paris, en 1880. Il est président de la Société municipale de secours mutuel du 20e arrondissement et reçoit d'ailleurs en 1887 une médaille d'argent en cette qualité. Enfin, en 1888-89, il est membre de la commission des statistiques. Et surtout, dans les dernières années de sa vie, Auguste Métivier dirige le dispensaire laïque et gratuit pour enfants malades au 45 rue des Cendriers, donc près de Belleville. C'est une institution bienfaisance, évidemment, qu'il a créée lui-même avec le concours de la municipalité et où il donne des consultations gratuites sans ménager sa peine, si on en croit ce témoignage. Malgré la maladie qui le minait déjà, il consacrait gratuitement chaque jour 3 ou 4 heures à ces jeunes malades, et l'on peut dire qu'il leur a sacrifié une partie de son existence, puisque les fatigues qu'il s'est imposées pour eux ont épuisé ses forces et aggravé sa maladie. Malheureusement, je ne sais pas de quoi il était malade. En 1893, son neveu par alliance, Georges de Calton, également docteur en médecine, lui succède comme médecin du dispensaire. Alors, le docteur Métivier donc, est un notable local, très engagé dans son arrondissement, et de son vivant, il fait l'objet d'une certaine reconnaissance publique. Ainsi, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur sur proposition du ministère de l'Intérieur par décret du 13 juillet 1891. Et cette reconnaissance va se prolonger après sa mort. Dès sa disparition, les habitants de l'arrondissement ont à cœur de lui témoigner leur gratitude par un geste public. Un an tout juste après sa mort, on envisage de lui dédier une voie publique. Le 20 octobre 1894, le Conseil municipal de Paris examine une pétition du syndicat des intérêts généraux du 20e arrondissement, demandant qu'on attribue le nom du docteur Métivier à la place des Rigoles, au motif, je cite, que M. Métivier a été conseiller municipal et maire du 20e arrondissement. Cette dernière justification est fausse. Il n'avait jamais été maire du 20e arrondissement, mais ça montre qu'il était extrêmement présent dans l'administration locale. La demande est repoussée au prétexte qu'il n'existe pas dans la nomenclature des voies de Paris de place des Rigoles. Il s'agit en fait d'un plateau planté d'arbres entre la rue des Rigoles et la rue des Peupliers. Et ça, c'est l'argument qu'impose l'administration parisienne. Ce changement de dénomination d'une partie de la rue des Rigoles perturberait la numérotation de la rue, pouvant causer un trouble dans les intérêts des habitants. Toutefois, le 5 juillet 1895, le conseil municipal accepte le projet d'érection d'un monument commémoratif. Une souscription est lancée, qui met du temps à aboutir, parce qu'on a souvent les souscriptions publiques, si bien qu'il faut attendre 1902 pour qu'un hommage public soit autorisé par le décret du président de la République du 12 décembre 1902. Et en 1904, un monument dédié au docteur Auguste Métivier est inauguré dans le square Tenon, aujourd'hui le square Édouard Vaillant, derrière la mairie, entre l'hôpital et la mairie. Il s'agit d'un buste en bronze qui est commandé au sculpteur Mathurin Moreau, qui est par ailleurs maire de l'arrondissement du 19e arrondissement voisin. Ce buste est placé sur un piédestal en pierre. Malheureusement, il disparaîtra en 1942, comme beaucoup de statues parisiennes, lors des opérations de récupération des métaux non ferreux par le gouvernement de Vichy. Mais le piédestal en pierre est toujours sur place. Il maintient la mémoire du nom d'Auguste Métivier. Quelques années plus tard, enfin, en 1910, le nom d'Auguste Métivier est donné à une petite place qui est formée par l'intersection de la rue des Amandiers et de l'avenue Gambetta, tout près du métro Père-Lachaise. Cette petite place s'appelait jusque-là Place des Amandiers ou Barrière des Amandiers. Et le décret donc, du 1er mars 1911 approuve plusieurs dénominations de voies publiques, dont la place Auguste Métivier. Pour conclure cette présentation de la vie et de l'œuvre multiple d'Auguste Métivier, on peut citer cette phrase extraite de la lettre qui est adressée au préfet de la Seine en mai 1895 par le comité de patronage pour l'érection d'un monument au docteur Métivier et qui résume assez bien, je pense, la vie et l'œuvre de cet homme resté malheureusement méconnu. Sa vie, toute d'abnégation et de dévouement, fut toujours consacré aux déshérités, auxquels il prodiguait ses soins et qu'il aidait de sa bourse. En un mot, le docteur Métivier fut l'homme de bien par excellence. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup, Christiane. Tu n'as pas parlé d'une brochure ou d'un petit ouvrage où tu parles justement d'Auguste Métivier.
Effectivement, je suis absolument.
Où est-ce qu'on peut se procurer?
On peut se le procurer tout simplement auprès de l'Association d'histoire et d'archéologie du 20e arrondissement de Paris, particulièrement sur son site internet qui est AHAV, Paris, en un seul mot, .com. Hein, je redis, AHAV, Paris, .com.
Les années 76, 79, etc. ont été des périodes très très fastes sur la création des bibliothèques populaires en particulier. Je sais que moi j'habite Montreuil, et donc à Montreuil il y a eu la création de la bibliothèque populaire de la ville, dirigée par la mairie. Contrairement à la bibliothèque des amis d'instruction ou à Asnières, qui avait une envie d'être très indépendante, là, ça a été vraiment, ça le fait. Là, il y a eu malgré tout au moment de cette création des grosses bagarres, des grosses difficultés pour la création de ces bibliothèques. La tendance à Montreuil était, après les Rednicots, était plutôt républicaine, et il y a eu beaucoup de conflits avec les socialistes sur place. Qu'est-ce qu'il en était dans le 19e? Parce que tu n'as pas parlé du tout des mouvements socialistes qui étaient beaucoup plus extrêmes par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il en était dans le 20e arrondissement?
Le 20e arrondissement, ce qu'on appelait les radicaux, était en train de monter.
D'accord.
En fait, ils sont contrés par Gambetta jusqu'à sa mort, en gros, jusqu'à 1882. Et après, on voit au contraire que ce sont les socialistes radicaux qui prennent le pouvoir, que ce soit dans les élections municipales ou dans les élections législatives. Donc, jusqu'en 1880, il y a une espèce de gros paravent qui est la personnalité de Gambetta, qui est très célèbre dans le 20e arrondissement, puisqu'il est élu depuis 1869, même si en 1869, il choisit d'aller siéger au nom des Bouches-du-Rhône, mais donc il est très connu des Bellevillois, et c'est l'homme de Belleville, ça c'est clair. Après effectivement, les Républicains vont être très nettement mis en minorité par les socialistes radicaux. Après, c'est...
Ok. Et à ce moment-là, il n'y en a pas du tout dans la bibliothèque. C'est-à-dire que c'est pour l'instant, c'est vraiment tenu par
par les Républicains. Alors, mon problème, c'est que je n'ai pas de documents sur cette bibliothèque après 1880.
D'accord.
Le seul qui soit le plus à gauche, pendant que j'ai des documents sur lui, sur elle, c'est Bralleret. Bralleret, c'est un radical. D'ailleurs, il est à couteau tiré avec Métivier, il est à couteau tiré avec Gérard, avec les gambettistes bontins, si je pouvais dire, de l'arrondissement.
Louise, Et par rapport aux personnes citées, est-ce que tu retrouves des gens que tu as rencontrés après dans tes recherches ailleurs?
Je crois pas. Par contre, je pense qu'il y a un changement dans les statuts par rapport au statut de la BAI 3 qu'on retrouve. C'est le statut du bibliothécaire qui, à la BAI 3, au début, fait partie de la commission administrative, a le droit de vote et qui ensuite ne figure plus sur les tableaux. Et on le considère comme un salarié et il est là, mais on lui retire un peu le droit de vote. Et je pense que Charles Plomb a dû être un peu trop présent à la BAI 3 et qu'ensuite on a un peu changé les statuts pour ça. D'autre part, ce qui me paraît important dans ce paquet de bibliothèques qui débarquent entre 75 et 78, c'est le fait que le conseil municipal de Paris, qui est républicain, vote des subventions.
Bien sûr, ils ont le soutien de la mairie centrale.
Oui, mais à partir de décembre 75, chaque bibliothèque reçoit 1 000 francs et assez vite 2 000 francs. Chaque année, il y a un rapport en décembre. Le premier, c'est Henri Arand qui le fait. Le deuxième, c'est Louis Combes qui est à l'abbaye 14 et ensuite à l'abbaye 13. Et la troisième, c'est un certain Bourneville qui n'est pas dans les BAI. Et que ça va beaucoup faciliter la création de ces bibliothèques.
Quand on lit les comptes rendus d'Assemblée Générale, j'en ai que deux, bien sûr. Donc, c'est un échantillon extrêmement réduit pour la BP du 20e. On se rend compte qu'ils parlent assez peu du fonctionnement de la bibliothèque. Bon, ils sont contents d'avoir de nouveaux adhérents. Ils ont un fonds de livres qui est très, 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 très important, qui est beaucoup moins important que d'autres bibliothèques parisiennes. Moi, je pense que chez eux, l'activité politique est au premier plan. C'est essentiellement ça qui les intéresse. Le reste, ils en parlent parce qu'ils sont les bibliothèques populaires, mais ils font pas. C'est pas le gros de leur activité, ça c'est clair. À lire les comptes rendus d'Assemblée générale. Il faut dire aussi que la bibliothèque populaire, elle a peut-être aussi perdu de l'influence dans le 20e arrondissement autour de 1900, quand la coopérative La Bellevilloise accueille l'université populaire. Là, on voit qu'il y a un déplacement du centre intellectuel, si je puis dire, ou ouvrier intellectuel, vers la Bellevilloise. J'avais travaillé.
C'est le premier travail que tu avais fait.
Et on voit qu'à partir de 1900, la Bellevilloise s'ouvre complètement aux œuvres sociales, à une bibliothèque, organise des cours, des conférences. Et je pense que c'est là que s'est allée cette activité-là. Donc, je suis persuadée que la bibliothèque du 20e, mais il faudrait trouver bien sûr confirmation à mes hypothèses, a disparu, s'est étiolée dans les années entre 1900 et 1914.
Il va nous rester à te remercier de cette très intéressante conférence. Je crois qu'il y a du gros boulot encore qui reste de recherche sur le sujet.
Oh oui, ça c'est sûr. Ça, c'est
passionnant. Donc, on te souhaite bon courage.
Et justement, c'est ça qui est intéressant. Ouais.